Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Samira au 39-21. Bonsoir Samira.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Samira ?
Et contente de vous revoir.
Moi aussi Samira. Est-ce que nous nous sommes déjà parlé ? Non.
En fait, on s'est déjà rencontrés mardi.
Mardi, nous nous sommes... Ah oui, oui Samira, comment allez-vous ?
Oui, bah, très bien.
Bon, très bien, mais je suis ravi.
Je suis contente ravie. D'être sur le...
Je suis ravi que vous ayez fait cette démarche, parce que oui, nous nous sommes croisés dans Paris, et vous m'avez conté l'histoire et les épreuves que vous traversiez, et je vous ai donc incité à appeler Julia, et je suis ravi de vous parler ce soir, que vous puissiez faire entendre votre voix, qui, on va l'entendre, et la voix aussi de nombreuses femmes, qui, vous allez nous raconter ça, Samira. Dites-moi tout.
Alors, mon prénom, c'est Samira, donc je suis née le 17 janvier 1966, Casablanca, et je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans et demi dans le cadre du groupement familial, puisque mon père était déjà en France travailleur émigré. Et ensuite, j'ai fait toute ma scolarité, j'ai été élevée à Château-Thierry, la ville de Jean de La Fontaine. Et ensuite, je suis montée à Paris pour travailler. Je travaille en tant qu'informaticienne. On développe des logiciels pour la banque. Donc, j'ai essentiellement travaillé sur la place parisienne dans la finance. Et puis, en septembre 2016, là, c'est un tsunami qui arrive. J'étais considérée comme invincible. Et en fait, on m'apprend lors d'un contrôle de ma mère que j'ai un cancer du sein.
Oui.
Pas le moindre, le cancer triple négatif.
Qui est un cancer extrêmement grave. Hein.
Oui, et en plus de stade 3. Et en fait, je suis rentrée pour un contrôle. En fait, j'avais fait la course la parisienne le 12 septembre 2016. Et suite à cette course, au fait, j'ai utilisé la marche athlétique, j'ai beaucoup travaillé avec mes bras, j'ai senti des coups d'aiguille ou des décharges électriques d'un côté d'un des seins. Et j'ai commencé à palper, et au fait, en palpant, j'ai senti une petite grosseur d'un demi-pouce.
Oui.
J'ai appuyé dessus et ça ne bougeait pas. Donc je me suis dit, c'est pas un kyste. Donc, je vais faire la même chose de l'autre sein. Et en fait, cette grosseur n'apparaissait pas du tout sur l'autre sein. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai appelé tout de suite pour faire mon contrôle. C'était l'année de mon contrôle, en plus. Sauf que j'avais l'habitude de faire le contrôle en juin et non pas en septembre. Parce que généralement, je réglais ce problème avant de partir en vacances. Et cette année-là, elle était assez particulière parce que je me suis sentie extrêmement fatiguée. Extrêmement fatiguée, des choses du quotidien que je n'arrivais plus faire en fin de journée après ma journée de travail. Un exemple, c'est-à-dire aller chercher une baguette pour préparer le repas du soir.
Oui.
Je n'y arrivais plus, parce que la boulangerie est en bas de chez moi. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, en fait. Et puis, comme je suis sportif, j'arrivais au stade, je ne donnais plus rien. Et je sentais une fatigue extrême. Et comme c'était l'année de mes 50 ans, je me suis dit, c'est la cinquantaine, en fait. Peut-être la ménopause qui s'installe. Et j'étais pas ménopausée ou bon, enfin voilà. Et ensuite, j'ai fait cette fameuse parisienne et ces décharges électriques ou l'équivalent de coups d'aiguille. Je me suis dit là, il y a quelque chose. Et pourquoi je n'ai pas fait ce contrôle au mois de juin ? Parce que on avait préparé un superbe voyage avec mes enfants. On devait faire la Floride. C'est un voyage où tout le monde s'est investi. C'était une année dure pour moi. Je me suis dit, je vais pas faire ce contrôle au mois de juin. Je le laisse tomber, je vais le faire après. Et il y a une amie, je le répète encore aujourd'hui, qui s'appelle Samira. En juin 2016, je t'avais dit qu'il fallait que tu fasses ton contrôle comme d'habitude. Vous savez ce que je lui avais répondu ?
Non.
Je n'ai pas le droit de gâcher le voyage de mes enfants.
Oui.
J'ai répondu ça sans savoir ce qu'il allait m'arriver au fait. Donc aujourd'hui encore, cette amie me le répète. Elle me dit, tu avais senti peut-être quelque chose de sérieux qui t'arrivait. Effectivement, j'étais très fatiguée, je perdais du poids. carillonner chez les médecins, mais ils n'arrivaient pas à trouver, mis à part que j'étais anémie en fer. Donc pour moi, ils avaient mis le nom dessus, sur cette fatigue et sur cette manque de tonus. Donc on m'a mis un traitement sous fer. Ça commençait à aller légèrement mieux, mais ce n'était pas encore l'apothéose. Je suis partie en vacances, je me suis reposée, ça allait mieux. Un mois de travail de reprise, je me suis retrouvée au même stade qu'avant de partir en vacances. Et j'ai fait la parisienne et puis le verdict est tombé deux jours après. Voilà. Donc, cancer triple négatif de stade 3.
Est-ce que, Samira, est-ce que vous parlez dans un haut-parleur là où vous avez un haut-parleur de... Vous parlez dans quoi avec, parce qu'il y a comme un...
Avec mon téléphone.
Directement dans le téléphone? Directement dans votre téléphone?
Oui.
D'accord, parce qu'il y a une espèce de décalage, en fait.
Vous entendez?
Oui, oui, je vous entends, mais il y a...
Oui, avec le portable, oui.
Oui, mais sans comment... avec le haut-parleur ou directement oui. Dans... Allô?
Non, sans haut-parleur.
D'accord.
Okay. J'ai enlevé les écouteurs.
D'accord, très bien.
J'ai enlevé les écouteurs.
Ça semble mieux maintenant.
Voilà.
D'accord, très bien. Donc, vous apprenez donc, ce concert. Comment vous réagissez à tout ça? Comment réagissez-vous à tout ça?
Je suis rentrée à 14h pour un contrôle et puis je suis sortie de... C'est dur parce que c'est un tsunami en fait.
Oui.
Et toute votre vie en fait est bouleversée. Bouleversée, tout ce que vous avez construit, bah, tout d'un coup, tout s'écroule en fait. S'écroule. Puis vous mettez le doigt dans quelque chose et vous ne savez pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter. Quand est-ce que ça va s'arrêter et que, est-ce que vous allez vous en sortir surtout?
Oui.
Et aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pas que ma parole, c'est la parole de toutes les femmes qui sont actuellement des guerrières, qui se battent contre ce fléau, parce que c'est quand même un cancer qui n'est pas anodin. Tous les cancers, d'ailleurs. Et on est pris dans une spirale de traitement qui sont des rouleaux compresseurs, avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Votre vie de femme est bouleversée, votre vie de mère est bouleversée, votre vie de salarié est bouleversée.
Que faisiez-vous dans la vie ?
Il faut essayer de se raccrocher à quelque chose de positif pour tenir le coup. J'étais informaticienne.
D'accord.
Je travaillais dans la banque. On développait des logiciels pour la banque. Voilà. Donc... aujourd'hui, j'ai été traitée dans une première phase de chimio, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement ciblé pour le triple négatif, puisque c'est un cancer qui n'est pas hormonodépendant, donc progestérone et œstrogène. Et de plus, il y a l'absence de la protéine HER2 à la surface de la cellule. Aujourd'hui, on a une chimio qui est standard. Réalise plus la radiothérapie. Certaines femmes, c'est carrément aussi l'ablation des seins. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Parce que pour moi, le triple négatif que j'ai, ce n'est pas génétique. Que dans les 80% des cancers triple négatifs du sein, et sous la mutation des gènes BRCA1, BRCA2. Donc ces personnes-là, eux, la plupart du temps, ils ont une ablation des seins.
Oui.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cancer métastasique et qui a un pourcentage de récidive qui est très important dans les deux ans qui suivent l'annonce, en fait. Ce fut le cas pour moi. J'ai récidivé donc en mars 2018 et là, ça a été un nouveau tsunami, voire même plus difficile qu'à la première annonce. Que vous avez eu l'impression d'avoir sorti la tête de l'eau et finalement on vous la renfonce de nouveau et là vous vous dites mais comment je vais encore trouver l'énergie pour continuer encore à me battre. Et finalement on la trouve parce que j'ai des enfants. Toutes les femmes la trouvent parce qu'elles sont entourées de leurs enfants, qu'il ne faut pas baisser les bras et que tant qu'il y a de l'espoir, ben, il y a de la vie. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que j'étais une personne au départ condamnée et aujourd'hui, je suis encore là,
oui,
devant vous, et pour porter la parole de toutes ces femmes qui aujourd'hui se battent à la fois pour les traitements et à la fois contre l'administration et les droits juridiques.
Voilà. Parce que vous, vous dites et que...
C'est pas facile d'en parler.
Oui, je me doute. Vous avez beaucoup de courage d'en parler. Vous dites qu'il y a beaucoup d'injustices autour de cette maladie. On nous parle des campagnes de sensibilisation et c'est très bien, mais en revanche, la reconstruction mammaire et les perruques, tout ça coûte beaucoup d'argent et ça n'est pas pris en charge. Vous, pardonnez, alors, pour vous qui écoutez, il y a un décalage,
je suis désolée. Sur le cancer au mois d'octobre. Attendez, là c'est bon pour
oui,
vous.
Oui, il y a un décalage, je ne sais pas pourquoi, comme si vous étiez
vous
très
bien
loin. Là, je vous entends bien, oui, ça y est. Allez-y, Samara.
Ah, vous m'entendez?
Oui, oui, je vous entends.
En fait, la campagne de sensibilisation qui a lieu tous les ans au mois d'octobre, qu'on appelle le mois rose, très bien. Mais le problème, c'est que dans les faits, il y a encore beaucoup de choses à faire, à savoir que les femmes se retrouvent confrontées à un parcours de combattant au niveau de l'administration, que vous savez que le cancer est considéré comme une affection de longue durée, la sécurité sociale. Aujourd'hui, si c'est une femme salariée, elle peut bénéficier de ses indemnités journalières pendant une durée de 3 ans, si les traitements sont longs et la reconstruction est nécessaire. Et au bout de 3 ans, moi, on bascule dans la pension d'invalidité. Là, vous dégringolez et votre salaire, enfin, ce n'est pas du tout l'équivalent ni de l'indemnité journalière, ni de votre salaire. Vous vous retrouvez avec une pension qui est largement beaucoup plus faible et qui ne vous permet pas de vivre, sauf si vous êtes en couple et que le couple puisse faire face financièrement à cette situation. C'est déjà une première injustice. Et d'autres choses, c'est que, en fait, il y a deux circuits. Il y a le circuit sécurité sociale qui vous, elle, vous considère comme invalide, mais invalide au sens de la sécurité sociale. Ensuite, vous avez l'autre circuit qui est la MDPH, qui, elle, parle aussi de notion d'invalidité, mais c'est la notion d'handicap qui n'a rien à voir. Donc, pour faire valoir ses droits, en fait, il faut déjà maîtriser ces deux circuits, savoir de quoi on parle. Moi, je me suis dit des capacités intellectuelles et malgré ça, je me suis battue pour essayer de comprendre comment faire valoir mes droits. Et au point, j'en ai déclenché du psoriasis parce que vous êtes complètement isolé et vous vous battez contre des mammouths dont vous ne comprenez pas le langage, en fait. Et aujourd'hui, je demande, c'est que ces femmes qui se battent, qu'elles aient des informations claires, qu'elles soient accompagnées, parce que c'est très difficile de se battre quand on est en plus en traitement. Des traitements qui vous diminuent d'un point de vue physique, mental et intellectuel. Et
Samira,
l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ces femmes-là, une fois qu'elles ont basculé en...
On va vous rappeler, on va écouter un morceau de musique et on va vous rappeler et rétablir la ligne parce que je ne peux pas vous poser de questions. Il y a une sorte de décalage et on va voir ce qui se passe. Donc, vous ne quittez pas et Florian va voir ça avec vous. Il va vous rappeler.
D'accord.
On écoute un morceau de musique pour l'instant. Et ça va mieux. Ça va mieux. On va vous entendre mieux là, Samira. Vous m'entendez ?
Ah, bien.
Voilà, c'est parfait, parce que là, c'était très gênant. Je n'arrivais pas à vous interrompre, je n'arrivais pas à vous poser de questions, donc c'était un peu embêtant. Comment se fait-il, en fait, que c'est les perruques, les circuits dont vous nous parlez, ça ne soit pas expliqué mieux aux personnes qui sont victimes du jour au lendemain de ce type de cancer ?
Eh bien, au fait, ça dépend des endroits où vous êtes pris en charge. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux où ils ont tous des systèmes d'assistance sociale ou de support, de soins, etc., qui peuvent vous expliquer toutes ces choses-là. Mais vous avez d'autres hôpitaux qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc moi, dans mon cas, en fait, j'étais prise d'abord dans un hôpital qui n'avait pas toute cette logistique de support. Donc la première annonce, je n'ai pas du tout été accompagnée sur les aspects administratifs, etc. Donc j'ai été correctement traitée par, comme tout autre patient. Mais par contre, quand il y a eu la récidive, là, par contre, j'ai senti tout de suite que je n'étais pas au bon endroit, qu'il fallait absolument que je décolle de l'endroit où j'étais,
oui,
et que je m'oriente vers un hôpital plus spécialisé dans ce type de cancer, puisque ce n'est pas un cancer standard, mais vraiment un cancer particulier. Et quand je me suis orientée vers un hôpital qui traitait que ce sujet-là, là, j'ai trouvé effectivement des personnes qui pouvaient m'accompagner sur le plan administratif et sur le plan juridique.
D'accord. Et comment s'est passée la vie de famille durant tout ce périple ? Parce que vous évoquiez le couple tout à l'heure, vous évoquiez la solidité financière du couple. Est-ce que vous avez résisté à ce tsunami avec ce cancer triple du sein qui est arrivé ?
Alors, je pense que quand on a eu l'annonce en septembre, donc il y avait l'approche de Noël, au fait, en 2016, décembre, et moi, je devais démarrer ma chimiothérapie, le temps de faire tous ces examens, etc., plus l'opération. Il a fallu attendre le mois de décembre pour faire la première campagne de chimio, lors de ma première annonce. Et ma fille avait 6 ans, elle venait de rentrer à l'école élémentaire, et mon fils avait 14 ans. Et j'ai dit que j'avais pas le droit de leur gâcher Noël. Et la première chose que m'a dite les infirmières pour me préparer à la campagne de chimio, c'était de commencer par couper mes cheveux un peu plus courts. Je leur ai dit pourquoi. Elle m'a dit ben, vous allez les perdre. Alors, je dis non. Je dis moi, j'avais pas l'intention d'annoncer quoi que ce soit à mes enfants tant que Noël n'était pas passé. Je dis mais bon. Par précaution, j'ai quand même raccourci mes cheveux, mais je n'ai pas complètement coupé. Donc la chimio la plus difficile a commencé. Et puis, je n'ai pas perdu mes cheveux. Noël est passé. Je n'ai pas perdu mes cheveux. Je n'avais rien dit aux enfants. Mon mari et moi, on a fait en sorte qu'ils passent le Noël tranquille. Et puis, arrivé le 31 décembre, on était chez des amis et c'est dur pour moi. À minuit, il y a eu la bonne année.
Oui.
Et puis moi, tout d'un coup, j'ai senti que ça commençait à me gratter au niveau de mes cheveux.
Oui.
Et puis ça commençait à se décoller, au fait. Quand je grattais, j'arrivais à enlever 2-3 cheveux. Et puis la nuit passe, et puis le lendemain, je prends ma douche. Et puis là, sous la douche, au fait, tout est parti. J'ai rempli un sac de plastique de cheveux. Et là, ça a été quand même un choc pour moi. Et puis, je me suis dit, mais comment je vais me présenter à mes enfants ? Et puis, je suis sortie de la douche discrètement et j'ai couru pour prendre un bonnet parce qu'il restait quelques brindilles, hein, c'est ce que j'appelle des brindilles. Et là, j'ai dit, comment je vais faire pour annoncer ça aux enfants ? Et puis, finalement, je leur ai dit, mais jamais avec la tête complètement. J'ai gardé mon bonnet, en fait. Donc, je leur ai dit que c'était un crabe, qu'il était entré dans le corps de maman et que maman va y traiter, et que ce crabe-là finira par partir. Et que pour eux, il fallait qu'ils ne s'inquiètent pas. Parce que j'ai tout de suite compris qu'en fait, il ne fallait absolument pas changer leur repère. Il ne fallait pas. Je savais qu'on pouvait tenir comme ça et que si je modifiais les repères de mes enfants, c'est là que les choses allaient peut-être se compliquer. Donc j'avais un emploi du temps de ministre entre les traitements, les obligations familiales, et puis leurs activités et ma fille qui rentrait à l'école primaire, qui n'était pas encore autonome. Et malgré ça, j'ai trouvé l'énergie de me lever le matin, je prenais ma douche, malgré ma fatigue. Je m'habillais comme si j'allais au travail, je me maquillais Et comme je suis d'origine marocaine, je savais manier le foulard. Donc, je mettais le foulard, j'essayais de le mettre de façon assortie à mes vêtements, etc. Et je sortais comme ça et j'accompagnais ma fille, je restais digne. Et je me montrais à ma fille que j'étais encore forte, qu'elle pouvait encore compter sur moi et que ça la sécurisait, en fait. Ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui encore, je tiens debout et je les accompagne dans leur vie. Et aujourd'hui, mes enfants n'ont aucun trouble. Ils escomptent des très bons résultats. Mon fils, il est en deuxième année de Polytech et ma fille est en sixième. Voilà.
Comment votre couple a-t-il traversé tout
ça ? Alors, le couple, au départ, mon mari, au début, il était très affecté, bien sûr. Moi, en fait, j'ai reçu l'information, mais je suis tout de suite rendue... J'ai tout de suite adopté mon vêtement de guerrière, donc j'étais en mode action. Et par contre, mon mari, c'était beaucoup plus difficile. Mais je lui dis, là, t'as pas le droit de lâcher, là. Faut pas flancher, hein. Il y a les enfants.
Oui.
Donc tu vas pleurer un bon coup, tu vas angoisser un bon coup, mais après, je veux plus entendre parler. Et donc, on est partis tous les deux en mode action. Voilà. Il y avait plus de place à l'émotion. C'était le combat total, il fallait tenir. Et puis quand il y a eu cette fameuse récidive en mars 2018, là, j'ai senti qu'il était complètement effondré. Et de nouveau, je l'ai reboosté. Et moi, en sortant de du premier hôpital, j'étais déjà en mode action. Il fallait absolument que je trouve le moyen de quitter cet hôpital et de rentrer dans un hôpital qui était plus adapté
spécialisé
à mon type de cancer.
Oui.
Voilà.
On voit encore l'instinct maternel, hein, l'instinct de... Votre instinct de femme, votre instinct de
oui.
mère, celle qui tient envers et contre
à tout.
Hein.
Oui. Oui. Et donc, ce qui est difficile à vivre dans ce cancer, c'est qu'en fait, il y a un avant et un après. Et on n'est pas aidé à savoir que notre féminité en prend un coup, mais vraiment un coup. À savoir qu'on perd nos cheveux, la perruque n'est pas prise en charge à 100%. Vous avez des soucis, la reconstruction mammaire.
Oui.
Pour certains, moi, ça n'a pas été le cas, mais pour d'autres, c'est très important pour les femmes, pour leur féminité. Pareil, c'est très difficile. Il faut du temps pour se reconstruire, pour pouvoir de nouveau repartir au combat pour cette reconstruction mammaire, pour retrouver sa féminité. Sachez que les traitements sont très, très, très dévastateurs. C'est des rouleaux compresseurs. Vous perdez votre libido, vous perdez votre sexualité, parce qu'il y a un effet important au niveau de la sécheresse vaginale. Il n'y a pas de remède aujourd'hui à ce problème. Comment dire, le couple, de se survivre.
On va marquer une pause, parce qu'on va laisser passer l'info, si vous voulez bien, et on va continuer juste après, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Yeah.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Vous pouvez nous appeler au 39 21 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Samira qui nous parle de son cancer du sein et des injustices administratives liées à la maladie qui lui imposent une double peine. Et lorsqu'on évoque aussi la vie tout court, en couple. Samira, vous évoquez la perte de libido, la perte d'envie sexuelle. Bon, est-ce que vous diriez tout de même, Samira, que vous avez eu quelque part la chance d'avoir des connaissances sur le sujet de l'administration et des assurances? Sans
oui.
ça aurait été très compliqué pour vous.
Oui, je quelqu'un qui est très curieuse et qui a des capacités intellectuelles qui m'ont permis de faire de l'éveil au niveau de la documentation. Et malgré ça, l'administration française a des textes extrêmement compliqués, à savoir qu'un point ou une virgule a son importance. Donc il faut savoir bien décrypter les textes pour clairement savoir si vous rentriez dans la case ou pas pour pouvoir bénéficier de tel ou tel droit. C'est un véritable métier. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand j'ai basculé dans l'autre hôpital, j'ai pu bénéficier de gens spécialisés à décrypter ce type de texte et qui m'ont plus ou moins donné les éléments pour pouvoir remplir clairement les dossiers et aller droit au but sans avoir à galérer toute seule dans mon côté. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes.
Et ça veut dire, en fait, que si on n'a pas toutes ces connaissances, en fait, on peut plonger au niveau du moral beaucoup plus rapidement.
Oui, parce que vous perdez... Alors, il y a celles qui sont sans emploi. Ça, par contre, je ne sais même pas comment elles peuvent s'en sortir. Celles qui ont un emploi comme moi, moi, quand ça m'est arrivé, j'avais 50 ans. J'avais quand même pas mal baroudé. J'avais travaillé 30 ans. Donc, j'ai eu des droits parce que j'avais cotisé depuis 30 ans. Et celles qui travaillent en temps partiel, bah c'est encore pire. Je veux dire, déjà, leur salaire est déjà diminué. Celles qui sont au chômage, celles qui sont mères au foyer, elles sont encore dans des situations encore plus précaires que moi. Et aujourd'hui, si, en plus, ce qui complique les choses dans la société moderne actuelle, moi encore, je suis informaticienne, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas la capacité d'accéder à Internet, d'instruire un dossier, parce que tout est numérisé, on parle aujourd'hui de l'électronisme, c'est-à-dire qu'on n'en est plus au stade de l'électrisme, c'est l'électronisme. Ces gens sont déjà pénalisés pour faire valoir leurs droits, parce que tout est instruit maintenant par Internet. Il faut avoir aussi accès à l'Internet. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous payer un abonnement Internet, eh ben, vous êtes plus ou moins déjà mal parti. Et ensuite, vous avez le support qui est là, qui connaît bien l'administration, qui peut vous guider à telle ou telle porte, sachant que nous, quand on arrive dans ce milieu-là, il y a plusieurs branches qui s'offrent à vous. Donc vous avez la branche sécurité sociale qui a son propre langage, vous avez la branche MDPH qui, elle, s'occupe essentiellement de l'handicap, mais on parle aussi d'invalidité. Alors vous n'y comprenez rien. Parce que la sécurité sociale, elle parle aussi d'invalidité. Mais l'invalidité, c'est au sens de perte d'emploi. Vous n'avez plus la capacité de travailler à tel ou tel taux. Ensuite, la MDPH, elle parle d'invalidité, mais au sens handicap. Donc, c'est fou. Vous avez l'impression que vous êtes dans
un puits sans fond, un tourbillon.
Dans une piscine, mais vous ne savez plus nager, au fait.
Oui, oui.
Voilà. Et vous cherchez la bouée. Vous cherchez la bouée à laquelle vous pouvez vous accrocher. Donc moi, j'ai fini par m'accrocher à une bouée parce que j'ai trouvé les bons interlocuteurs qui pouvaient m'aider à interpréter tout ça. Mais là, on parle de disparité au niveau régional. Et en province, ils n'ont pas forcément tous ces éléments-là. Aussi, en termes de soins de support, pareil. Aujourd'hui, à Paris, on est beaucoup plus favorisé qu'en province ou dans les DOM-TOM. Donc, toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour accompagner ces traitements qui sont en plus un atout pour la réussite, pour réussir à gagner la guérison, eh ben, aujourd'hui, il y a des disparités entre hôpitaux, entre secteurs géographiques et des disparités intellectuelles, à savoir des gens qui sont capables d'accéder à du numérique et d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a déjà une fracture sociale à ce niveau-là.
Oui. En tout cas, on voit combien cela peut être un parcours du combattant. Merci mille fois, Samira, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Comment ça va, là, au moment où on se parle? Vous êtes, on peut dire, vous êtes en rémission
Alors, Moi, c'est un cas particulier étant donné que j'ai déjà fait une récidive. Aujourd'hui, je suis dans un essai clinique. Mais aujourd'hui, je ne peux pas en parler parce que c'est un essai en aveugle. Donc, je ne peux pas. Il n'y a que les spécialistes qui peuvent en parler. Et je suis dans cet essai clinique depuis novembre 2019. Et depuis novembre 2019, je n'ai pas du tout fait de récidive. Donc, il parle de réponse complète dans mon cas. Alors, aujourd'hui, ça se passe. Avant, j'avais deux traitements par mois. Et ça se passe comme une chimio, c'est-à-dire que ça se passe par la chambre, en hôpital du jour, une semaine sur deux. Et depuis mai, l'année dernière, je ne suis plus qu'à un traitement par mois.
Oui.
Donc, je peux commencer à entamer la construction parce que. Deux traitements par mois, vous vivez dans un planning entre les examens plus le traitement qui fatigue et qui provoque aussi des myalgies, mais c'est moins lourd que la chimiothérapie. Donc aujourd'hui, j'arrive à me reconstruire. Je fais le point aussi sur ma vie. Le cancer, en fait, ça a été... avant, j'étais en action, j'étais au front, et jamais, à un moment donné, je me suis posée, parce que j'avais pas le temps. Je courais après le temps pour l'attraper, en fait, entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Et ce cancer a permis de faire un arrêt sur image. Et cet arrêt sur image a permis de se poser un questionnement sur moi, parce que de toute façon, il faut pas chercher à devenir... comme avant, on ne le sera jamais. Il faut se projeter autrement avec ce que le cancer vous a offert. Et aujourd'hui, je me sens bien malgré la gravité de la maladie. Je me sens même belle parce que je me suis consacrée du temps et je me suis posé les bonnes questions quant à ma vie et ma vie de couple aussi. Et aujourd'hui, je sais que c'est dur d'entamer une séparation. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais voulu ou planifié. C'est quelque chose qui m'était imposé, parce que c'est des choses qui se sont installées, mais jamais je n'ai eu le temps de poser les bonnes questions et de diagnostiquer la situation. Et aujourd'hui, depuis ce cancer, je parlais de double peine entre la maladie et les difficultés financières pour essayer de lier les deux, parce qu'on perd aussi notre salaire. Et aujourd'hui, je parle de triple peine. Parce que même aujourd'hui dans le divorce, je ne peux pas faire valoir mes droits en tant que maladie de longue durée avec des conséquences très graves au niveau professionnel et au niveau financier. Parce que aujourd'hui, la pension que je gagne aujourd'hui est considérée comme un substitut de salaire. Donc ça rentre dans la communauté. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'un cancer, c'est un dommage corporel. C'est un dommage corporel. Ce n'est pas un substitut de salaire. Et aujourd'hui, je me bats pour faire valoir mes droits en tant que épouse qui a investi dans la communauté tout en étant malade. Et aujourd'hui, on ne me reconnaît pas ce droit. On me dit qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai gagné pendant les 6 ans de mon salaire, ça appartient à la communauté. Et ça, ce n'est pas normal. Et sur la jurisprudence, il n'y a rien eu de fait à ce niveau-là. D'autant plus que si vous vous séparez, vous êtes obligé, si vous avez un bien, de le partager et de payer l'autre part. Et pour la payer, soit vous vendez, ou soit vous devez contracter un crédit. On ne peut pas contracter de crédit immobilier ou de consommation aujourd'hui. Et je suis bien placée pour le faire, pour le savoir, puisque je travaille dans la finance. Même si aujourd'hui on vous parle de l'oubli, de droit à l'oubli, ce n'est pas vrai dans les faits. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucune banque qui accepte de vous
prêter de l'argent,
de vous faire un crédit.
Bien sûr.
Ou bien, même si on le fait sur une petite somme, vous allez payer un taux d'assurance extrêmement élevé du fait du risque aggravé que vous ne pourrez pas faire face, étant donné que vous n'avez plus de salaire. Voilà.
Très bien, Samira. Merci mille fois, en tout cas, pour votre témoignage ce soir.
Je suis très contente que vous me donniez la parole. Ce n'est pas mon témoignage à moi. C'est le témoignage de toutes ces femmes qui sont dans l'obscurité et la détresse. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la vie est plus forte. Et quelle que soit l'issue, la malade ou pas, nous avons le droit de vivre dignement et le droit au bonheur.
Voilà.
Et vous êtes,
pour nous et pour nos proches.
Et vous êtes la voix de toutes ces femmes dans l'obscurité ce soir. Merci. Passez une bonne soirée, Samira, et courage, bien
et
évidemment.
Et merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Et j'espère que ça bougera les lignes.
Mais j'espère. Merci. J'espère. Mais c'est une goutte encore.
Merci.
Une de plus. Au revoir, Samira.
Au revoir.